Chapitre 23. L'œil d'Horus. Les cours avaient repris depuis plus de 5 semaines au lendemain du lancement du tournoi de l'étoile et du grand bal. Et Zizo et Alix restaient toujours fâchés. Aucun d'eux n'avait osé faire le premier pas. C'était stupide. Zizo le savait. Il ne s'était pas reparlé depuis qu'il l'avait laissé seul, sur l'esplanade de Montmartre. Ils se croisaient pourtant souvent dans les couloirs du château, dans la rotonde ou la galerie d'Apollon, sous la pyramide, dans les allées du verger. Mais Alix était toujours pressée, accompagnée par un ministre, occupée à pousser au Génor ou entourée du groupe de soldats avec qui elle s'entraînait. Alix devait en dire autant de lui. Depuis plus d'un mois, il lui était impossible de se déplacer sans que Chrysante le poursuive. Mais cette fois, Zizo l'avait décidé. C'était terminé. Il ne supportait plus cette séparation stupide avec Alix, alors qu'ils étaient d'accord sur tout, il en était persuadé. Le soleil était à peine levé quand Zizo se posta sous la pyramide. Il savait qu'Alix devait elle aussi se lever tôt. Elle était de corvée d'inventaire avec Vanille, section hygiène buccale et corporelle. Il laisserait la ministre blonde commencer seule son classement de savonnette, rangé par couleur et parfum, et parlerait avec Alix. Il chercha du courage en fixant la lune blanche qui disparaissait peu à peu dans la clarté du matin. Il expliquerait à Alix qu'il laisserait tomber ses recherches avec Chrysante, ses hiéroglyphes indéchiffrables, ce tombeau de Marie-Lune introuvable, ce journal secret de Pierre-Sol. Il lui avouerait qu'elle avait raison, qu'il n'était pas responsable du passé, et que les enfants des deux tribus étaient sûrement capables de comprendre les erreurs des adultes, sans se déchirer. « Déjà levé ?»« Oh non, Chrysante !» Cette petite peste s'était elle aussi réveillée à l'aube. Elle devait le surveiller jusque dans son sommeil. Lali, dans ses bras, ses cheveux de laine ébouriffés, portait un pyjama. « Qu'est-ce que tu fais là ?»«
Ben, comme toi. Plus on se lève tôt, plus on a de temps pour chercher. »
De l'autre côté de la pyramide, le soleil escaladait les façades des maisons et des églises.
« Je ne me suis pas levé pour ça, Chris. Je laisse tomber. On ne trouvera jamais l'explication de ces hiéroglyphes. » On ne sait même pas s'il y a quelque chose à trouver. »
Zizo, inquiet, regardait tour à tour l'entrée du pavillon des soldats sous la verrière et le grand escalier. Alix, d'une seconde à l'autre, pouvait en surgir. Le soleil côté cour carré l'aveuglait, alors que la lune côté verger avait presque disparu. Chrysante n'avait jamais paru aussi vexée.
« Bien sûr qu'il y a quelque chose à trouver. Même l'autre dans son fauteuil l'a compris. » C'est pas chercher dont tu as marre, avoue-le. C'est de moi. Chrysante, la collante. Tu préfères ta petite reine avec ses fleurs fanées sur la tête? C'est elle que t'attendais?
Le regard de Zizo ne savait plus où se poser, n'importe où, sauf en direction de cette fille hystérique.
Regarde-moi quand je te parle!
Zizo préférait incendier ses yeux au ciel rougi par le soleil, au-dessus de la cour carrée, puis apaiser leur brûlure à la lune, au-dessus du verger bleu-gris.
« Tu me dégoûtes !»
s'apprêta à crier Chrysante. Le garçon posa soudain une main sur son épaule, titubant comme s'il avait été frappé par la foudre.
« Le cartouche, Chrys. Le cartouche du livre. Vite, rappelle-moi les 6 dessins. »«
Une lune ?»
fit la fille, surprise.
« Une lune, puis un cercle, une femme allongée. » Un homme debout, l'œil d'Horus et la tombe.
On les lit bien dans cet ordre-là.
Oui, de droite à gauche, parce que les personnages regardent vers la gauche.
Zizo semblait d'un coup excité. L'homme et la femme sont Pierre-Sol et Marie-Lune, on est d'accord?
Peut-être.
Et la lune est avant le soleil. Par toutes les étoiles du firmament, c'était tellement évident, pourquoi on n'y a pas pensé avant?
Chrysante paraissait à la fois étonnée et subjuguée.
Mais qu'est-ce que tu...
Chrys, réfléchis. Quand est-ce que la lune précède le soleil?
Ben, le matin.
Évidemment, le matin. Et où se lève le soleil, le matin?
Elle désigna du doigt la cour carrée.
Là-bas ?
Exactement ! À l'est ! Les deux symboles, le soleil après la lune, indiquent une direction, l'est ! Et l'œil d'Horus, sans doute une fenêtre, la fenêtre de la pièce la plus à l'est du château.
Chrysante n'arrivait pas à croire que la solution puisse être aussi simple.
Comment les savants historiens ont-ils pu ne pas y penser ?
Continua Zizo, entraîné par son propre raisonnement.
Tu as raison, ils ont cherché quelque chose de plus compliqué. Le château est construit sur l'axe triomphal de Paris. L'histoire de la ville s'écrit de l'est vers l'ouest. Le sanctuaire et le Louvre au Moyen-Âge, puis la place de l'Aiguille, les Champs-Élysées, l'Arc de Triomphe au bout, l'autre arche moderne au loin, d'est en ouest, selon la course du soleil.
Chrysante sautillait d'un pied sur l'autre. Elle secouait Lali et chantait à voix basse.
« on a trouvé les premiers. »
Elle pivota pour se jeter dans les bras de Zizo.
« T'es le meilleur, je t'ai !»
Mais le garçon avait déjà disparu en direction de la cour carrée, plein est. Il n'y avait aucun doute. Une fois dans la rue qui longeait la cour carrée, on repérait facilement la partie de la façade la plus à l'est. Il n'y avait aucune fenêtre sur cette façade, seulement une série de petits soupiraux à peine visibles de l'extérieur où même un chat n'aurait pas pu se glisser. « C'est là, » fit Zizo. « C'est forcément là. » Il était persuadé d'avoir trouvé. Il s'était torturé les méninges sur cette énigme depuis de longues semaines. Il n'allait pas lâcher si près du but. Alix l'attendrait encore quelques heures.
Il retrouverait cette foutue tombe, Chryse tiendrait sa promesse et brûlerait le livre, et il aurait ensuite 5 mois pour lui trouver un autre cavalier au grand bal, parce que dès demain, il serait réconcilié avec sa reine adorée.
« On ne peut pas entrer, »
soupira Chrysante.
« Même Lali ne pourrait pas se faufiler. »
Elle avait raison, mais Zizo avait une autre idée.
« Tu restes là, compris ? Tu regardes bien à travers la fenêtre. Celle-ci m'a l'air d'être la plus à l'est. Et dès que tu vois de la lumière, tu frappes au carreau. »«
Si tu veux, Zizo, mais... »
Le garçon, une nouvelle fois, avait déjà filé. Il s'était muni d'une torche et d'une boussole et marchait le plus rapidement possible en direction du pavillon des savants. Il savait que cette partie du château était un véritable labyrinthe composé de dizaines de pièces où, dans presque toutes, s'entassaient diverses antiquités, égyptiennes bien entendu, mais aussi de civilisations anciennes dont il ignorait tout. Des Étrusques, des Hittites, des Phéniciennes, des Assyriennes. Des chambres entières remplies de sarcophages, de plaques mortuaires, de statues plus ou moins bien conservées, des milliers et des milliers d'objets. Mais lui savait où il allait. Une fois dans le pavillon des savants, il tenta de ralentir l'allure et de marcher normalement, ne consultant sa boussole que lorsqu'il était seul. Il croisa Pastor, les bras chargés d'éprouvettes multicolores, puis Moebia, qui avait enfilé une blouse blanche sur son pyjama. Décidément, les savants se levaient tôt. Aucun d'entre eux ne s'étonna de le voir dans les couloirs. Plein est. Au fur et à mesure qu'il progressait, les lieux devenaient déserts et les statues se recouvraient d'une couche plus épaisse de poussière. Personne ne s'aventurait jamais dans ces pièces sombres, encombrées de vieilleries, les plus éloignées des salles de cour et des laboratoires. Les couloirs effectuaient de longs détours. Certains se terminaient en impasse et ils devaient rebrousser chemin. Mais, à force de persévérer, il finissait toujours par trouver un passage, suivant l'aiguille de sa boussole, indiquant 9 heures. À l'est toute. Le couloir s'arrêta enfin, et il se retrouva devant un mur gris. On ne pouvait pas être plus à l'est du château. Un mur gris et 7 portes. Personne n'avait dû les ouvrir depuis des siècles, à en juger par les toiles d'araignée tissées sur les gonds et les poignets. Zizo poussa fort et ouvrit la première. Elle était occupée par de vieux cartons mités, rangés sur des étagères de fer. Sur le sol, des vases d'argile étaient brisés. Il aperçut quelques souris qui décampèrent, effrayées par les flammes de sa torche. Il la leva, aussi près que possible de l'unique et minuscule fenêtre. Elle devait n'offrir qu'un maigre rayon de lumière quand le soleil était à son zénith. Il attendit un moment.
Si Chrysanthe apercevait la lumière de l'autre côté, elle cognerait au carreau. Rien. Aucun bruit. Chambre suivante. Des masques terrifiants l'accueillirent dès qu'il poussa la porte. Des dizaines d'yeux semblaient les pieds. Des singes, des chacals, des serpents, des chiens, des chats, des scarabées. Zizou frissonna. Tous paraissaient vivants. Pas encore totalement réveillés, mais s'il restait ainsi à leur coller sa torche sous le nez, il finirait par sortir de leur long sommeil. Et toujours une étroite et fine fenêtre au ras du sol de la cour carrée. Et aucun signe de Chrysanthe. Est-ce qu'elle était toujours là, à l'attendre de l'autre côté? Derrière une nouvelle porte, Zizou faillit mourir de peur. 10 momies étaient allongées et leurs bandelettes avaient été à moitié rongées par des rats, si bien qu'on aurait cru entrer dans la chambre de morts-vivants, mi-squelettes, mi-zombies. Zizou dut les enjamber pour approcher la torche du soupirail sans rien entendre de l'autre côté. La quatrième et la cinquième pièce étaient respectivement occupées par des bustes de pharaons ou de dieux, exposés sur des planches comme autant de têtes décapitées, et par des bocaux étranges et transparents dans lesquels toutes sortes de petits insectes avaient été conservés, scorpions, frelons, thans, sauterelles, criquets. De quoi se nourrir tout un hiver, pensa Zizou. Honora saurait sûrement avec quelle sauce les accompagner. Mais toujours personne à l'extérieur, de l'autre côté de la fenêtre. Zizou entra dans la sixième chambre. Celle-ci, à l'inverse des autres, était presque vide. Elle n'était occupée au centre que par un sarcophage banal de terre ocre, sans aucun motif décoratif. Il était bien moins spectaculaire que ceux exposés dans les salles les plus fréquentées des savants. Personne n'aurait pu se douter que, dans cette pièce banale, se cachait le trésor que tous, depuis des semaines, recherchaient. Toc, toc, toc. Chrysanthe avait aperçu la lumière de sa torche et frappait au carreau. Il se trouvait donc dans la pièce la plus à l'est du château. Ce soupirail était forcément l'œil d'Horus. Et sous ce sarcophage dormait, depuis 10 ans, le corps de Marie-Lune.